Radio Okapi. Écho des développements.
Chers auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'Écho de développement, votre magazine radiophonique dédié aux questions de l'environnement et développement durable qui s'intéresse aujourd'hui au séminaire atelier se rapportant à la problématique du développement de la chaîne de valeur de la filière des bois d'œuvre en Afrique centrale. Tati Mapouko est à la présentation de cette émission. Jean-Marc Matoua qui supervise et coordonne ce numéro. Paul Badiadiama s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous radiophoniques consacrés aux questions de l'environnement et développement durable.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La RDC possède l'un des plus vastes domaines forestiers tropicaux au monde avec environ 155 millions d'hectares de forêt. Ces ressources sont cruciales pour la biodiversité, le climat mondial et le développement économique local. Cependant, la filière des bois d'œuvre est confrontée à de nombreux défis. Ce constat est fait également dans les autres pays qui partagent en commun les forêts du bassin du Congo, notamment la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Comment développer la chaîne des valeurs des bois d'œuvre en RDC et dans les autres pays qui partagent en commun les forêts du bassin du Congo? Nous en parlons dans ce numéro des codes de développement. Quel est l'état des lieux de l'évolution du marché des bois d'œuvre en Afrique centrale? Alain Bertin Tiochop, représentant pays de l'Association technique des bois tropicaux AIBT en République du Congo, répond.
Ce colloque a comme objectif de faire un état des lieux de l'évolution des marchés domestiques dans la sous-région d'Afrique centrale ces 10 dernières années. Ensuite, évaluer les freins, les obstacles à l'approvisionnement de ce marché en produits de bois légal. Enfin, il faut mettre en place un mécanisme pour assurer, pour garantir l'approvisionnement de nos marchés, des marchés domestiques de la région d'Afrique centrale en bois issu d'une exploitation légale et durable. Voilà les enjeux de cet atelier.
Et nous signalons que les participants viennent de la RDC. L'atelier se tient ici à Kinshasa, du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Monsieur Alain Bertin, quel est l'état des lieux faites-vous de l'exploitation forestière dans cette région de l'Afrique centrale?
Il faut dire que le colloque porte sur la chaîne de valeur bois domestique. C'est un secteur qui se développe beaucoup plus dans l'informel. Quel que soit, de manière générale, il y a quelques évolutions dans d'autres pays, comme le Cameroun. On remarque très bien qu'au niveau du Cameroun, sur le plan légal, la loi a beaucoup évolué, il y a des arrêtés qui sont pris, mais en termes d'efficacité, d'applicabilité de la mise en œuvre, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, ce colloque, c'est l'occasion de faire du partage d'expériences entre tous les pays de la sous-région, c'est-à-dire que essayer d'étendre ce qui marche bien dans d'autres pays et ensemble définir une stratégie sous-régionale pour améliorer le développement de nos marchés locaux.
En même temps aussi, pour le cas de la RDC, il y a un moratoire qui essaie d'être renouvelé, mais ce que l'on voit dans la pratique est que l'exploitation illégale ne cesse de continuer. Partagez-nous un peu l'expérience du Congo Brazzaville en la matière.
Oui, voilà. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que je vous ai dit que c'est un secteur qui est assez complexe, qui est très complexe. En tant que représentant de la TIBT et résident au Congo, justement, nous avons élaboré un projet intitulé Appui au secteur privé, marché intérieur du bois. Ce projet vise essentiellement à améliorer la compétitivité et la durabilité de la filière bois domestique. Il s'agit en effet de rendre attractif et compétitif le marché du bois domestique en République du Congo au travers la structuration de la chaîne de valeur bois domestique et la formation, le renforcement de capacité des acteurs. Donc, il y a un niveau de structuration qu'il faut améliorer. Ensuite, il faut absolument former, accompagner les acteurs. Mais de prime abord, vous conviendrez avec moi que ces deux actions ne pourront être efficaces qu'à travers un état de lieu, au travers un diagnostic. Le diagnostic est en train d'être fait en ce moment et il aboutira à l'identification de tous les acteurs de la chaîne de valeur, l'identification de leurs besoins prioritaires. Et ensuite, nous allons élaborer un plan de structuration pour accompagner et pour aider le secteur à être mieux organisé et surtout un plan de formation. Formation sur les thématiques qui seront identifiées par les bénéficiaires. Parce que le projet a été élaboré pour aider les bénéficiaires. Voilà l'expérience, par exemple, du Congo Brazzaville. Au Congo Brazzaville, il y a un plaidoyer fort qui a été mis en place aussi. Un plaidoyer entre toutes les parties prenantes. Parce que nous pensons que la solution réside au niveau du plaidoyer. Il faut faire un plaidoyer entre les différentes administrations, les parties prenantes, c'est-à-dire administration des forêts, de l'environnement, petites et moyennes entreprises, mais également l'administration des finances, la société civile et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra trouver des solutions efficaces.
L'exploitation artisanale des bois d'œuvre fait face à de nombreux défis. Les spécialistes citent par exemple la déforestation massive, souvent liée à l'exploitation artisanale non contrôlée, la faible valorisation économique malgré un potentiel énorme. À cela s'ajoute un cadre réglementaire complexe et parfois inadapté, et une faible gouvernance et les contrôles des zones d'exploitation, affirme M. Félicien Moussengue, chargé d'opérations à l'ONG Top & Boss, basé à Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Nous avons commencé à nous intéresser, Top & Boss a commencé à s'intéresser à l'exploitation artisanale des bois d'œuvre depuis 2015. Top & Boss a commencé d'abord par faire des études pour établir un état des lieux sur l'exploitation artisanale des bois dans la province de la Tchopo. Et de ces études, il y a 4 ou 5 études qui ont été menées, de ces études, il est ressorti que il y a la violation des textes relatifs à l'exploitation artisanale en RDC à tous les niveaux, par tous les acteurs. L'État lui-même viole les textes, et les exploitants eux-mêmes violent les textes, les communautés elles-mêmes violent les textes, et donc tout acteur qui intervient dans la chaîne des valeurs de l'exploitation artisanale entre-temps, en même temps, est auteur des violations des textes, mais aussi victime des conséquences des violations des textes. Et nous sommes alors dans la désolation, c'est tous les acteurs qui se plaignent de cette violation pendant qu'eux-mêmes sont acteurs et victimes.
Voilà. Oui, mais dites-vous, M. Félicien, quels sont les facteurs au fait qui occasionnent cette violation d'une manière généralisée
Il y a plusieurs facteurs qui occasionnent ça, entre autres, si je peux vous parler, les facteurs, c'est qu'il y a, je peux parler de la crise d'État, il y a le non-respect des textes par, tel que j'ai dit, par tous les acteurs, Il y a aussi la lenteur administrative pour les exploitants qui veulent se conformer. Et il y a une lenteur pour arriver à l'exploitation artisanale, pour que l'exploitant se formalise. Et actuellement, depuis longtemps, dans la Tchopo, on ne livre pas de permis de coupe, par exemple, aux exploitants artisanaux. Et ça décourage même la formalisation. Si un exploitant paye, il a la preuve de paiement et pour lui, la preuve de paiement vaut un permis d'exploitation. Voilà. Et tout ça occasionne les tracasseries. Il y a des fois où, à un certain lieu où cela passe et d'autres essayent de méconnaître ça et l'exploitant est mis en difficulté par rapport à tout ça.
Nous étions, je me rappelle, M. Félicien, nous étions en exposition scientifique il y a 4 ou 5 ans dans la Tchopo, où l'on a remarqué qu'il y a certains industriels qui étaient dans les pas de se conformer en termes de la légalisation, mais il y avait une certaine anarchie beaucoup plus prononcée du côté des exploitants forestiers artisanaux. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est parce que l'État ne se conforme pas, l'État ne fait pas un effort de vulgariser les textes réglementant les secteurs.
Il y a d'abord un problème de vulgarisation des textes réglementaires dans le secteur, mais il y a aussi ceux-là qui connaissent les textes, violent ça intentionnellement, ils les font à dessein. Mais aussi, nous, on a accompagné les communautés et les exploitants dans la formalisation depuis 2016 avec le projet APEV. Et nous avions, en RDC, nous avions accompagné 10 communautés, dont 3 dans la Mongala, 3 dans l'Ituri et 4 dans la Tchopo. Et tous ces exploitants ont réussi à se formaliser. Ça veut dire comme véritables exploitants forestiers, exploitants forestiers du bois. Et après, bon, ce qui est remarqué aussi, ces exploitants, sachant déjà leur droits et devoirs, étant en ordre, ils sont réticents de payer toutes ces taxes-là illégales. Et comme ils sont réticents de payer, voilà, ils sont plus coincés par les agents de l'ordre. Ils sont plus coincés, ils sont plus visés et ils se sentent plus sécurisés que ceux-là qui travaillent dans l'irrégularité, qui peuvent facilement payer et corrompre parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Voilà, il y a cette difficulté-là et il y a cette grande problématique.
Et une autre constatation, M. Félicien, est que l'on a remarqué que dans les villages où on prélève des grimes, ces bois de valeur, les prix au pied, à l'époque c'était à 25 000, je ne sais pas si ça s'est amélioré, vous trouvez des communautés qui sont très pauvres, notamment le PAP.
Voilà, c'est ça. J'ai fait mention de ça dans mon exposé. L'achat, l'exploitation par pied, ça veut dire les exploitants ne veulent pas. C'est pourquoi j'ai dit même les exploitants ne veulent pas se conformer au texte. Le texte refuse l'exploitation, l'achat par pied. Mais les exploitants tiennent à l'achat par pied et non par mètre cube comme prévu dans les textes. Voilà, comme dit les textes. Et comme disent les textes, c'est un problème. Mais aussi, nous accompagnons les communautés dans les processus de la foresterie communautaire, qui est même recommandé par le code forestier pour essayer d'avoir les plans d'affectation des terres au niveau de communauté, c'est dans les plans chefs de gestion.
L'exploitation artisanale des bois d'œuvre représente plus de 90% des productions dans le pays qui partage en commun les forêts du bassin du Congo. Souvent informelle, elle échappe au contrôle de l'État, soutient Guillaume Lescuyer, chercheur au Centre international de recherche forestière, CIFOR, RDC.
Alors, c'est un atelier d'abord sous-régional, qui concerne plusieurs pays de la sous-région du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, et qui va porter sur finalement l'État et l'évolution des marchés nationaux du bois d'œuvre. Donc tous les endroits dans lesquels vous achetez du bois pour construire un cercueil, le toit de votre maison, des chaises, etc. Ils sont très nombreux en Afrique centrale. C'est de l'économie informelle, on ne les connaît pas très bien, voire très mal. Et pourtant, ils sont importants. Ils génèrent beaucoup de revenus, ont beaucoup de conséquences sociales, environnementales. Et c'est de tout ça dont on discute aujourd'hui et demain, ici, à l'Hôtel Léon, à Kinshasa.
En même temps, ce secteur fait face à une concurrence assez impressionnante avec, par exemple, l'immobilier qui provient venaient des pays asiatiques, de la Chine notamment. Lorsque nous entrons dans des bureaux, généralement l'immobilier c'est en matériaux ou en sous-produits qui viennent des pays de l'Asie, notamment la Chine, alors que nous avons des boîtes valeurs que l'on peut valoriser ici. Quel état de lieu faites-vous de ce secteur en RDC et puis au Congo-Brazzaville et puis au Cameroun?
Alors vous avez raison de préciser qu'il y a plusieurs sources de bois pour les consommateurs nationaux ou sous-régionaux. Mais évidemment, nous, ce qu'on essaye de réfléchir, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser la ressource nationale pour contribuer à augmenter le niveau de vie des populations locales et le bien-être des nations de manière générale. Et rien de tel que d'utiliser ces ressources propres plutôt que d'importer. Mais pour ça, il faut être, comme vous le disiez, concurrentiel. C'est-à-dire proposer des produits qui sont de qualité, qui ne sont pas trop chers, qui répondent aux demandes des consommateurs, de la diversité des consommateurs. Et aujourd'hui, effectivement, les produits nationaux ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, et c'est bien pour ça que partie des consommateurs se tournent vers des marchés, des meubles, voilà, pour citer un exemple, produits en Turquie, en Chine ou ailleurs. L'objectif, c'est de rendre ces produits nationaux plus compétitifs et qui répondent davantage aux attentes des consommateurs pour qu'il y ait une contribution plus importante à la valeur ajoutée du pays.
C'était la formation de ces Guillaume, la formation, la capacitation des gens qui évoluent dans ces filières.
Bien sûr, ça fait partie effectivement des capacités, que ce soit du bûcheron, du producteur, des transporteurs, des intermédiaires, mais également des menuisiers, des ébénistes, etc. Améliorer leurs capacités, c'est rendre des produits plus performants, plus efficaces. Mais il ne s'agit pas juste que de la capacité. Quand on a un secteur comme celui du marché domestique du bois, il y a de l'offre, on parle de capacité des producteurs, mais il y a aussi la demande. Et il faut travailler sur ces deux côtés à la fois. Oui. Vous aurez beau apporter les meilleurs produits, les plus efficaces, etc. S'ils ne sont pas demandés par des consommateurs, vos produits ne se vendront pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut travailler avec les offres pour renforcer leur capacité, mais également travailler avec les consommateurs pour augmenter leur sensibilité à avoir du bois légal, du bois durable, du bois de qualité. Et quand je parle de consommateur, c'est pas un type de consommateur. Il y a des entreprises, il y a des administrations, il y a des particuliers, il y a des professionnels. C'est aussi avec ces publics-là, ces consommateurs-là, qu'il faut travailler pour augmenter leur envie d'acheter national et pour comprendre quelles sont leurs attentes et aider les offreurs à répondre aux attentes des consommateurs.
En même temps, il y a la dimension réglementation de ce secteur-là, M. Guillaume, parce que je me rappelle qu'il y a des moratoires qu'on a essayé de renouveler, mais sur le secteur, on voit que les choses ne bougent presque pas.
C'est vrai, c'est un peu frustrant parce qu'on se rend compte que dans presque tous les pays de la sous-région, l'essentiel des marchés domestiques sont alimentés par du bois d'origine informelle. Alors, ce n'est pas forcément illégal, ça veut simplement dire que les acteurs n'ont pas les documents nécessaires, les documents légaux nécessaires pour être dans la formalité. Et effectivement, l'accès à la formalité, que ce soit en RDC, mais c'est le même problème dans toute la sous-région, l'accès à l'égalité pour un petit exploitant artisanal est très compliqué, parce que coûteuse, parce que compliquée d'un point de vue technique, parce qu'il faut faire des dizaines, des milliers de kilomètres parfois pour aller réclamer un permis, il faut suivre son dossier.
Et donc, pendant 3, 4, 5, 6 mois.
Et revenir, et motiver, etc. Et qui fait qu'au total, même les entrepreneurs de bonne volonté, ils se découragent et ils restent dans l'informalité, parce que c'est compliqué et que parce qu'ils arrivent à vendre leur bois tout en restant informels. Donc on est dans une sorte de trappe à illégalité. Voilà. Ça n'empêche pas que les filières d'être performantes, d'être très actives, de savoir répondre à leurs demandes, mais il y a un manque à gagner pour l'État congolais, il y a un manque à gagner même pour le type d'exploitant, parce qu'un petit exploitant qui reste informel, il aura du mal à aller à la banque pour avoir un prêt, parce qu'il n'a rien à mettre en garantie. Donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on améliore ce secteur-là, on améliore la réglementation, et ça veut souvent dire, on vient de l'entendre dans l'exposé, ça veut souvent dire l'alléger, la rendre à la portée des petits exploitants, sinon ils n'y iront tout simplement pas.
Le marché intérieur des bois d'œuvre est dominé par Kinshasa, avec une forte demande en bois transformé pour la construction et la menuiserie. Il est important de professionnaliser le secteur dans le cadre de la foresterie communautaire, conclut Félicien Moussengue. Nous rappelons qu'il est le chargé des opérations à l'ONG Trop & Boss.
Et actuellement, dans la province de la Tchopo, nous avons 14 communautés qui ont des concessions forestières des communautés locales. Parmi ces 14, 12 sont dans les territoires de Bafouassende, et ces 12-là ont eu leur titre de concession forestière des communautés locales à travers l'accompagnement des Trop & Boss, bien entendu avec le projet Waking Landscape, plusieurs projets que nous mettons en place. Et Waking Landscape, nous avons aussi le projet PCRF Et également, nous avons le projet Sefomepai qui accompagne ces communautés dans la gestion et exploitation de leurs ressources. Mais il y a également 32 communautés qui sont accompagnées par Tropenbos et pour toujours dans le processus de la foresterie communautaire avec le financement des tenures facility dans le cadre du projet Sefomepac, sécurisation foncière et des moyens d'existence des peuples autochtones et communautés locales. Et sur les 32 communautés accompagnées, nous avons les 18 et le gouverneur a ordonné et l'affichage de ces dossiers. Et après 30 jours, s'il n'y a pas de contestation, le gouverneur peut signer 31 titres de concession forestière des communautés locales pour les communautés de Basoko, pour les communautés de Banalia, pour les communautés d'Ubundu et également pour les communautés de Bafouassène.
C'est par ici que nous clôturons le magazine Éco de développement que j'ai eu l'immense plaisir de les présenter sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Paul Badianyama s'est occupé de la prise de son. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Éco de développement. À très bientôt.